Bonjour, je suis Lucas Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Les pays riches en ressources minérales et matières premières, telles que pétrole, blé, cuivre ou bien encore café, ont traditionnellement enregistré des taux de croissance inférieurs à ceux des pays moins bien dotés par la nature. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la malédiction des ressources naturelles. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Elles vont de la volatilité des marchés à l'effet d'éviction sur l'industrie de transformation, du manque de structure institutionnelle à la guerre civile pure et simple. Jeffrey Frankel est économiste au National Bureau of Economic Research. Il a récemment animé un séminaire au Fonds monétaire international où il a évoqué les instruments qui, selon lui, pourraient contribuer à atténuer la malédiction des ressources naturelles, voire la transformer en bénédiction. L'un des instruments qu'il a mis au point est ce qu'il appelle les obligations indexées sur les prix des matières premières. Elles n'ont pas encore été adoptées.
Curieusement, les obligations indexées sur les matières premières n'existent pas. Or, elles devraient exister. Une fois que j'ai défini le problème, j'essaie de réfléchir aux politiques et aux institutions qui aideront les pays à éviter les écueils propres aux richesses en ressources naturelles. L'un des problèmes tient à la volatilité. Si les prix augmentent, notamment en période d'expansion, vous empruntez sur les marchés, par exemple pour mettre en valeur vos gisements, vous devez investir et donc emprunter pour l'exploration. Par le passé, la dette internationale était pour l'essentiel libellée en devises, en dollars, en euros, que sais-je. Et les problèmes ont été nombreux. Cela dit, une dette libellée en monnaie nationale, ce n'est pas non plus nécessairement la solution. Donc la proposition est la suivante. Si vous devez absolument emprunter, au lieu de dépendre de l'évolution du dollar ou de toute autre monnaie, votre prêt est indexé sur le prix du produit de base, disons le pétrole par exemple. Que les cours du brut augmentent ou qu'ils diminuent, vous êtes automatiquement couvert car vos recettes d'exportation suivront une évolution parallèle. Vos recettes augmentent lorsque votre service de la dette augmente, lui aussi, et elles diminuent lorsque le service de la dette baisse. C'est automatique. Vous n'avez pas à endurer de restructuration ou de défaut de paiement, ni engager de négociations avec vos créanciers ou une quelconque contrepartie. C'est un mécanisme très efficient de partage des risques. L'idée tourne depuis un certain temps.
Alors comment expliquer qu'elle n'ait jamais été appliquée ?
C'est un peu mystérieux. Un marché a besoin de liquidités. C'est une sorte de cercle vicieux, en ce sens que tout le monde attend que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. D'ailleurs, lorsque j'interroge les ministres des Finances de ces pays-là ou les spécialistes de Wall Street, c'est un peu la réponse qu'ils me donnent. Il faut savoir qu'il y a une clientèle tout à fait naturelle pour ces obligations. À la différence des gros montages financiers, de ces contrats d'assurance contre les défauts de paiement ou autres dérivés complexes, dans ce cas particulier, il y a un client tout à fait logique. Si vous êtes producteur de pétrole, vous voulez vous couvrir contre le risque éventuel d'une chute des cours. Mais à l'autre bout de la chaîne, il y a des entreprises de distribution d'électricité dans les pays industrialisés, par exemple, ou bien encore des compagnies aériennes qui, elles, voudront, à l'inverse, se protéger au cas où les cours augmenteraient. Dans le cas du minerai de fer, ce sont des entreprises sidérurgiques. Dans le cas du cuivre, les entreprises d'électronique. Bref, il y a une clientèle toute prête. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'instrument n'a pas décollé. Peut-être que les institutions financières internationales, la Banque mondiale et le FMI, pourraient jouer un rôle utile d'amorçage de ce marché.
Pour combattre la malédiction des ressources naturelles, vous recommandez par ailleurs aux pays de réduire la procyclicité de leur politique macroéconomique. C'est un peu technique tout ça. Pourriez-vous nous expliquer ?
La procyclicité, c'est cette tendance fâcheuse qui est ancrée depuis longtemps dans les pays en développement de manière générale et tout particulièrement chez les producteurs de matières premières. Je m'explique. Lorsque vous êtes en phase d'expansion, votre croissance est rapide, le prix de vos exportations augmente sur les marchés internationaux, vous produisez beaucoup, vous exportez beaucoup, et lorsqu'il y a expansion, l'État emprunte beaucoup, les capitaux affluent dans le pays, l'État dépense beaucoup, la politique monétaire et budgétaire ne subit aucune contrainte, et donc l'économie s'achemine vers une bulle. Ensuite, quand les prix redescendent sur les marchés internationaux des matières premières, ou disons que vos matières premières s'épuisent, alors tout s'effondre et vous entrez en récession. Mais la récession devient encore plus grave, car l'État est contraint de réduire les dépenses faute de ne plus pouvoir emprunter. C'est une véritable montagne russe, où les crêtes et les creux sont encore plus prononcés qu'ils ne devraient l'être. C'est ça la procyclicité. J'ai donc fait des propositions pour tenter d'atténuer ce phénomène.
Autrement dit, il faut épargner lorsque la conjoncture est favorable en prévision des périodes de vaches maigres. Cela semble plus facile à dire qu'à faire. Qu'a-t-on fait pour que les dirigeants politiques s'astreignent à ce principe? Je crois comprendre que le Chili a réussi en la matière.
Chile, as you mentioned, is kind of the...
En effet, le Chili est l'exemple le plus parlant, car lorsque les cours du cuivre augmentaient, le pays a épargné le gros de cette manne et remboursé sa dette. Il a d'ailleurs obtenu une note de crédit supérieure à celle des autres pays latino-américains, mais aussi à celle de certains pays européens. Lorsque la récession a frappé, le Chili a donc pu dépenser davantage. Et n'oublions pas que le pays a souffert d'un séisme. Je dirais que tout cela n'est pas simplement attribuable au fait que les dirigeants ont fait un bon travail. En effet, le Chili s'est doté d'institutions. Remontons à l'année 2000. Le Chili a alors adopté des institutions budgétaires qui pourraient sans doute fonctionner dans n'importe quel autre pays. Les règles prévoient que vous pouvez dépenser en phase d'expansion, mais seulement si l'expansion est permanente, structurelle en termes techniques, si les cours du cuivre sont supérieurs en permanence. S'il s'agit d'un simple mouvement passager et que les prix vont de nouveau baisser, alors il faut épargner. Ce que le Chili a fait de différent et qui en fait a été codifié sous forme de loi en 2006, c'est que l'appréciation de ce qui est permanent ou temporaire ne relève pas du gouvernement. La décision appartient à un panel indépendant d'experts qui sont en fait à l'abri du processus politique.
Compte tenu de la complexité des ressources économiques disponibles dans les différents pays et de la diversité d'objectifs politiques visés par les gouvernements de par le monde, pensez-vous que les pays réussiront à mobiliser leurs forces contre la malédiction des ressources naturelles? Y a-t-il beaucoup de gens disposés à suivre l'exemple du Chili?
En fait, la pire des malédictions, c'est lorsque la corruption est généralisée et que le produit des ressources naturelles finit dans les poches des élites ou sert à construire des routes pour desservir leurs luxueuses résidences ou bien encore est mis à l'abri dans un compte en Suisse ou ailleurs. Mais je dois vous dire qu'il y a des signes très encourageants, notamment dans certains des pays où des gisements viennent d'être découverts. Je pense par exemple aux pays d'Afrique de l'Ouest qui viennent de découvrir du pétrole ou pour qui l'extraction minière est devenue rentable, ou bien encore à la Mongolie qui, comme vous le savez, est en plein essor. Dans beaucoup de ces pays, les dirigeants vous disent « Nous savons que cela n'a rien de nouveau, nous savons que beaucoup d'autres pays sont passés par là et qu'à l'euphorie de l'abondance succède l'effondrement lorsque les ressources sont épuisées. Nous sommes conscients de cette malédiction des ressources naturelles et nous voulons y échapper. Pour l'heure, il est bon qu'il y ait des échanges d'informations. Les gouvernements sont à la recherche de suggestions sur la manière de limiter ou d'éviter cette malédiction. Bref, je trouve cela très encourageant. »
Que font les grandes institutions, comme par exemple le Fonds monétaire international, pour renforcer ce sentiment de sécurité financière et de sécurité économique?
L'assistance technique est un domaine où le FMI peut intervenir. Si le FMI ou la Banque mondiale accordent déjà un prêt à un pays d'Afrique de l'Ouest, ce prêt pourrait être aménagé, pourrait être relié à l'évolution des cours des matières premières produites par ce pays, quitte à distribuer ensuite le risque lié à ces matières premières en vendant les obligations dont nous parlions aux investisseurs intéressés. Les compagnies d'électricité, les lignes aériennes, les entreprises sidérurgiques devraient être intéressées dans le cas du pétrole, du minerai de fer, etc. En revanche, elles ne seront probablement pas disposées à assumer le risque de crédit en prêtant à un pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, ce n'est tout simplement pas leur métier. C'est précisément là où le FMI et la Banque mondiale peuvent faire la jonction et faire fonctionner le système et, partant, créer un marché suffisamment profond et liquide, capable de convaincre les entreprises, les emprunteurs et les prêteurs de sa pérennité.
C'était l'économiste Jeffrey Frankel qui a récemment animé un séminaire au Fonds monétaire international sur les moyens de maîtriser la malédiction des ressources naturelles. Pour écouter d'autres entretiens sur la malédiction des ressources naturelles et sur d'autres thèmes, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.